Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nainar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Les psychotraumatismes 100% illustrés est un ouvrage de vulgarisation en psychologie clinique signé par Gwenaëlle Percio et Johanna Mikoud, psychologue clinicienne, psychothérapeute et formatrice. Publié chez Erols, il vise à rendre intelligibles les mécanismes du psychotraumatisme sans réduire l'expérience des personnes à une liste de symptômes. Le livre explique comment un événement ou une exposition répétée à des situations insécurisantes peut dépasser les capacités ordinaires d'adaptation et laisser des traces durables dans les émotions, le corps, les relations et la perception de soi. Il distingue plusieurs formes de traumatisme, dont les formes simples, complexes, multiples, familiales, transgénérationnelles et vicariantes. Sa particularité tient à son dispositif visuel dessin, schéma et CNET soutiennent une approche psychoéducative accessible. L'ambition n'est pas de poser un diagnostic à distance ni de remplacer un accompagnement, mais de donner des repères pour comprendre les réactions post-traumatiques, leur ancrage neurobiologique et les voies thérapeutiques envisageables. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, distinguer l'événement traumatique du psychotraumatisme et du stress aigu, le livre place une distinction essentielle au centre de sa démarche, un événement difficile. Violent ou menaçant ne produit pas mécaniquement le même effet chez toutes les personnes. Le psychotraumatisme renvoie moins à la seule nature factuelle de ce qui s'est passé qu'à la manière dont l'expérience a débordé les ressources de protection, de compréhension et de régulation disponibles au moment des faits. Cette précision évite deux erreurs opposées, banaliser des conséquences réelles au motif que le danger est terminé, ou considérer que toute souffrance après une épreuve équivaut nécessairement à un trouble durable. Les autrices relient cette question au stress aigu, qui constitue une réponse normale de survie face à une menace. Lorsque cette réponse ne peut pas se résorber ou s'intégrer, certains mécanismes de protection peuvent persister hors de leur contexte initial. Les manifestations évoquées dans les présentations du livre, comme les émotions envahissantes, les cauchemars, les souvenirs intrusifs, l'anxiété, la colère ou au contraire la coupure émotionnelle, deviennent alors plus compréhensibles. Cette mise en ordre conceptuel a une fonction pratique, elle aide à ne pas interpréter ces réactions comme un manque de volonté ou un défaut de caractère. Elle rappelle aussi que l'évaluation d'un trouble de stress post-traumatique relève d'un professionnel, tandis que la psychoéducation peut déjà réduire confusion et culpabilité. Deuxièmement, cartographier les traumatismes simples, complexes, relationnels et vicariants. L'un des apports documentés de l'ouvrage est d'élargir le regard au-delà de l'image d'un traumatisme lié à un événement unique. Les autrices abordent les formes simples, complexes et multiples, ainsi que les dimensions familiales, transgénérationnelles et vicariantes. Cette diversité importe parce que les conditions d'exposition influencent les difficultés rencontrées ensuite. Une effraction ponctuelle peut laisser des réminiscences centrées sur une scène, un lieu ou une sensation, des expériences répétées. Particulièrement lorsqu'elles surviennent dans des liens dont dépend la sécurité de la personne, peuvent affecter plus largement la régulation émotionnelle, l'image de soi et la confiance relationnelle. Le terme familial attire l'attention sur le fait que l'espace censé protéger peut parfois devenir source d'insécurité. La dimension transgénérationnelle invite, avec prudence, à examiner comment des histoires de violence, de silence, de perte ou de peur peuvent marquer les modes relationnels et les récits transmis dans une famille, sans transformer cette idée en fatalité. Enfin, le traumatisme vicariant concerne l'impact possible d'une exposition répétée à la souffrance d'autrui, notamment dans les métiers d'aide. En présentant ces catégories, le livre ne cherche pas à enfermer les lecteurs dans des étiquettes. Il fournit plutôt une grille pour comprendre pourquoi des personnes exposées à des réalités différentes peuvent avoir besoin de soutien, de rythmes de soins et de ressources distincts. Troisièmement, relier symptômes, système nerveux et santé sans dissocier le corps du vécu. Le livre insiste sur le lien entre psychotraumatisme et neurobiologie afin de rendre compte du caractère souvent involontaire des réactions. Cette perspective permet de comprendre que le corps et le système nerveux continuent parfois à répondre comme si une menace était présente, même lorsque la personne sait rationnellement qu'elle est en sécurité. Hypervigilance, sursaut, sommeil perturbé, agitation, réaction de panique ou difficulté de concentration peuvent s'inscrire dans ce fonctionnement défensif. À l'inverse, certaines personnes décrivent un engourdissement affectif, une impression de détachement ou une mise à distance de leurs sensations. Le recours à des schémas et à des illustrations est particulièrement adapté à ce sujet, il peut rendre visibles les interactions entre événements, interprétations, émotions, réactions corporelles et comportements, sans imposer un discours excessivement technique. Les autrices signalent également que les retentissements peuvent toucher la santé physique. Cette idée ne signifie pas que tout symptôme corporel aurait une cause traumatique, ni qu'un suivi médical serait secondaire. Elle souligne plutôt que le stress prolongé mobilise l'organisme et que la souffrance psychique mérite une approche globale. L'intérêt analytique de ce volet est donc de sortir d'une opposition artificielle entre psychologique et somatique. Il donne un langage pour décrire des expériences souvent vécues comme incohérentes, tout en maintenant la nécessité d'une évaluation individualisée. Quatrièmement, comprendre les effets du trauma sur les émotions, les relations et l'estime de soi. Les présentations de l'ouvrage mettent en avant des retentissements quotidiens variés, colère débordante, tristesse intense, inquiétude difficile à apaiser, évitement, distance affective ou faible estime de soi. Le livre les aborde comme des conséquences possibles d'une expérience de danger et non comme des traits fixes de personnalité. Cette approche est importante sur le plan relationnel. Une personne qui évite certaines situations, contrôle fortement son environnement ou semble absente émotionnellement peut chercher consciemment ou non à réduire le risque d'être à nouveau submergé. Ces stratégies peuvent avoir été protectrices à un moment donné tout en devenant coûteuses lorsqu'elles limitent les liens, le travail, le repos ou la liberté de choix. Le regard porté sur l'enfance constitue également un axe pertinent compte tenu de l'expérience de Johanna Mikud dans la protection de l'enfance. Les expériences précoces d'insécurité peuvent fragiliser le sentiment de sécurité et compliquer la confiance envers les autres. Toutefois, l'ouvrage évite de faire du passé une explication totale de l'identité présente. Comprendre les enchaînements entre émotions, réactions corporelles et conduites permet de repérer ce qui se répète et d'ouvrir des marges d'action. Les scénettes ont ici une valeur pédagogique, elles rendent observables des dynamiques ordinaires sans prétendre résumer l'histoire singulière de chaque lecteur. Elles peuvent aussi aider les proches et les professionnels à remplacer un jugement moral par une lecture plus informée des comportements. En dernier lieu, situer les pistes thérapeutiques dans une démarche de sécurité et de progression. L'ouvrage ne s'arrête pas au constat des blessures psychotraumatiques, il présente des pistes thérapeutiques et insiste sur la possibilité d'une évolution. Son orientation reste cohérente avec une démarche de psychoéducation, mieux identifier les mécanismes en jeu peut aider une personne à reconnaître ses déclencheurs, ses réactions et ses besoins de sécurité. Les sources associées au livre évoquent aussi des approches psychocorporelles susceptibles d'aider à apaiser ou à réinformer le système nerveux. Cette formulation doit être comprise comme une ouverture vers des soins adaptés, et non comme la promesse d'un protocole universel ou d'une guérison rapide par l'exercice individuel. En matière de traumatisme, le rythme, la stabilisation et la qualité du cadre thérapeutique comptent particulièrement. Le livre semble ainsi privilégier une représentation graduée du rétablissement. Il peut s'agir de retrouver des capacités de régulation, de diminuer l'emprise de certains souvenirs, de mieux habiter son corps ou de renouer avec des relations plus sûres. La forme illustrée soutient cet objectif en proposant des repères faciles à reprendre entre deux consultations ou à partager avec un proche. Pour les professionnels de l'accompagnement, elle peut servir de support de dialogue. Pour les personnes concernées, elle peut faciliter la préparation de questions à adresser à un praticien. Sa limite, inhérente au format grand public, est qu'elle ne peut remplacer ni un diagnostic ni une prise en charge personnalisée, surtout lorsque les symptômes sont sévères ou dissociatifs. En conclusion, les psychotraumatismes 100% illustré s'adresse d'abord aux personnes qui souhaitent comprendre des réactions persistantes après des expériences éprouvantes, sans être confrontées d'emblée à un vocabulaire clinique opaque. Il peut également intéresser les proches désireux de mieux interpréter certains comportements, ainsi que les étudiants, intervenants sociaux, soignants et professionnels de l'accompagnement qui cherchent un support d'introduction clair. Son bénéfice principal est psychoéducatif, il relie des manifestations parfois déroutantes, tels que l'hypervigilance, les cauchemars, l'évitement, les débordements émotionnels ou le détachement à des mécanismes de survie et de régulation. Cette lecture peut contribuer à réduire la honte et les interprétations moralisantes, tout en rappelant que chaque parcours nécessite une évaluation singulière. Par rapport à des manuels plus académiques, l'ouvrage se distingue par son format entièrement illustré, qui utilise schémas et scénettes pour articuler événements, émotions, corps et comportements, par rapport à certains ouvrages de développement personnel. Il se démarque par l'ancrage clinique de ses autrices et par l'attention portée à la pluralité des psychotraumatismes, y compris les formes complexes, familiales, transgénérationnelles et vicariantes. Il constitue donc une porte d'entrée structurée vers un sujet exigeant. Il est particulièrement utile comme outil de compréhension et de préparation à une démarche de soins, mais ne doit pas être confondu avec un substitut à un suivi psychologique, médical ou spécialisé lorsque la souffrance compromet durablement la sécurité ou le quotidien. Si vous souhaitez soutenir Gwenaëlle Percio, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.